Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 20, nous sommes dans le magazine du midi de Fréquence Mistral. Nous sommes ici à l'antenne de Briançon et je suis avec Hugues Chardonnet, notre invité du jour, fondateur de l'association 82-4000. Alors peut-être avant de vous présenter, déjà, vous connaissiez Lucas ?
Eh bien non, merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. J'ai trouvé que c'était, comment dirais-je, très touchant et par des mots justes sur la montagne. Et
ça a fait
magnifique.
Écho. D'accord, ça a fait écho à vos ressentis en montagne alors.
Tout à fait.
Puisque vous êtes guide de haute montagne, mais je vais vous laisser vous présenter, plutôt que moi vous présenter. Qui êtes-vous, Hugues ?
Alors, je n'ai rien à dire sur moi, hein, certainement. Hugues Chardonnet, oui, j'habite Briançon. La montagne est très importante dans ma vie. C'est une découverte que j'ai faite grâce à un partage avec des amis généreux. Et ça marqué le tracé toute ma vie, même si j'ai, avant d'être guide, été médecin. Et voilà. Et donc, après, à la fin de ma carrière, on va dire, avec la création de ce très très beau projet collectif qui est l'association 82-4000 solidaires.
Puisque comment vous êtes arrivé à la montagne ? Vous êtes arrivé à la montagne assez tardivement, il me semble, dans les métiers de la montagne, je veux dire.
Oui, j'ai passé le diplôme de guide assez tard. C'est assez inhabituel. J'ai fini la formation, j'avais 49 ans. Mais c'était un projet que j'avais au fond de moi, comme un rêve de gosse inscrit de vivre du partage de cet amour de l'environnement naturel, de la haute montagne et de l'alpinisme, qui est toute une culture que j'ai eu la chance de découvrir. Donc, quand j'étais gamin, grâce à ces amis qui m'ont invité dans leur beau chalet à Chavigny, où j'ai attrapé cette maladie d'amour qui est la maladie de la montagne, qui est une belle maladie qu'on a envie de transmettre autour de soi lorsqu'on l'a attrapée.
Et vous la transmettez notamment à travers l'association que vous avez créée en 2012, si je ne me trompe pas, avec pour objectif de rendre accessible la haute montagne à toutes et tous, et notamment aux personnes, je cite, hein, qui n'ont pas un rond, c'est ainsi que c'est présenté entre autres sur votre site internet. D'où est venue cette idée ? Quelle est l'histoire de cette association, de la création de cette association ?
Pour quelqu'un comme moi qui a eu beaucoup de chance, puisque moi, un gamin de banlieue, hein, j'ai grandi dans l'Essonne, la banlieue parisienne, et on n'est pas invité à faire de l'alpinisme, on n'a pas la chance d'aller justement voir un lever de soleil comme Lucas le chantait tout à l'heure, de s'émerveiller de cette splendeur incroyable qui pourtant appartient à toutes et à tous. Et lorsque j'ai commencé le métier de guide, ça m'a vraiment touché très profondément de découvrir qu'on fait un métier extraordinaire avec des gens dont on est fier de côtoyer, pardon. Et c'est venu impacter toute mon histoire personnelle, où j'ai toujours aimé rendre service, où j'ai été très touché par la culture de l'évangile qui a été pour moi une véritable conversion, et du service donc de ceux qui sont oubliés de la société, oubliés en général, et en particulier des plus pauvres, dans l'association, le mouvement ATD Carmonde, dans lequel j'étais un peu actif, et de côtoyer ces personnes magnifiques qui ont tellement de choses à nous apprendre dans leur créativité pour survivre au quotidien. Et là, en montagne, donc, je partageais cette découverte avec des amis, des clients aussi en tant que guide. Ça vous choque pas cet univers gratuit, ouvert, accueillant qu'est la haute montagne, qu'on y soit dans un entre-soi de gens déjà très favorisés. Et là, il m'a semblé évident que notre société qui valorise tellement la réussite sociale, mais surtout la réussite d'avoir de l'argent. L'argent devient une sorte de nouveau dieu. C'est le Graal. Voilà, si j'ai de l'argent, j'ai réussi ma vie. Et là, les personnes en précarité, les personnes les plus pauvres, m'avaient déjà appris que l'intensité de leur qualité, de leur vie, et qu'il y avait peut-être quelque chose de tout simple à faire. Je dis, moi, je suis un alpiniste, je ne sais rien faire à part de l'alpinisme, qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que j'ai de meilleur à partager pour l'alpinisme? Voilà. Et donc, on a commencé comme ça, on s'est dit tout simplement, avec ATD Quart Monde, on va rencontrer des personnes à qui on n'a jamais proposé d'aller en montagne, peut-être qu'ils ne sont jamais allés en vacances, tout simplement, en tous les cas, qui n'ont pas touché un glacier ni du rocher, et on va aller avec eux, on va vivre cette découverte.
Donc vous disiez, vous avez constaté, vous, dans votre métier de guide de haute montagne, que la montagne est réservée aux personnes qui ont de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été le cas ou qui est en évolution, selon vous ?
C'est une question qui a été très étudiée. Effectivement, la montagne, c'est un environnement ouvert. Il ne faut pas dire que la montagne est réservée. Souvent, c'est un domaine public. On a le cas ici avec le parc des Écrins, qui est vraiment un domaine public ouvert à tous, toute l'année. On ne peut pas fermer la montagne. C'est la loi montagne de Mazot, qui était un alpiniste. Et donc, c'est une contre-vérité, mais c'est une réalité d'observation du quotidien, que on est globalement en alpinisme, et plus on va haut, plus on va dans la difficulté, et bien plus on va tomber dans dans un monde qui semble clivant en apparence. En tous les cas, on va trouver beaucoup d'hommes plutôt blonds, blancs, et des gens qui ont une certaine culture, et souvent très à l'aise sur le plan économique. Et donc il y a quelque chose à briser pour dire non, la montagne, au contraire, c'est un lieu d'inclusion et qu'il faut ouvrir, parce que la montagne, j'ai envie de dire, moi je suis sûr, elle est impatiente d'accueillir toutes ces personnes qui ont tellement à bénéficier de cette découverte pour elles-mêmes et du coup pour la société. Il faut créer des cordées avec des gens qui sont non invités aujourd'hui, mais qui vont le devenir de plus en plus.
Pour des raisons sociétales. Alors, en tout cas, vous les invitez, et vous parliez de hauteur. Il faut savoir que 4000 solidaires, le nom de l'association, signifie 82 sommets de 4000. C'est l'objectif de l'association d'amener ces cordées de personnes de toute origine, de toute classe sociale, à monter sur ces 82 4000.
Alors, c'est pas le projet de l'association, mais le nom est venu du fait que les alpinistes sont des gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment l'environnement dans lequel ils sont. Et là, cette passion de la montagne, on l'a découvert qu'en la partageant avec les personnes en grande difficulté économique, c'était une histoire de transmission. Et que beaucoup des personnes qui viennent sont éblouies par cet environnement. Il se passe quelque chose dans leur vie qui est un déclic très puissant. Et que donc, ce rêve que nous avons partagé produit un effet extrêmement positif sur les deux personnes, ou en tous les cas les deux milieux dans lesquels qui se sont rencontrés, parce que c'est deux milieux qui ne se rencontrent jamais, qui vont grâce à ce partage que ça va se produire. Et là, donc nous on s'est dit, un alpiniste, c'est quelqu'un qui rêve de faire des beaux sommets, c'est quelqu'un qui rêve de faire des 4000, et donc les 4000, ce rêve partagé, c'est ce qui a donné le nom de l'association, les 82 4000 solidaires. C'est pas parce que vous êtes bénévole à 82 4000 que vous abandonnez votre rêve, au contraire, il prend du volume puisque vous le transmettez. C'est comme c'est la différence entre la culture et le commerce.
Donc c'est aussi à destination des bénévoles, on va revenir sur le bénévolat, mais des personnes qui viennent encadrer aussi ces séjours pour leur permettre de partager cette passion qu'ils ont eux dans leur pratique quotidienne. D'accord. Donc vous allez dans les Alpes, mais pas seulement, ce ne sont pas seulement des 4000 dans les Alpes, et ce ne sont pas toujours des 4000 d'ailleurs.
Alors le cœur de l'association, effectivement, c'est de créer des projets de vacances en haute montagne, La montagne, il faut un peu de temps. Donc on ne fait pas une demi-journée, une journée d'escalade ou de cascade de glace. Non, on va aller à la rencontre de personnes. Et parce qu'à Briançon, on côtoie finalement assez peu de personnes en grande difficulté économique, même s'il y en a. Et c'est grâce à des structures sociales. Et en France, c'est très touchant de voir qu'il y a des milliers de structures sociales, associatives en particulier, qui ont découvert un service qu'on peut partager avec des personnes en difficulté. Et donc, ça commence toujours par quelqu'un de 82 4000 qui va se faire connaître auprès d'une structure sociale. Donc au début, on a commencé dans le mouvement ATD Quart-Monde, ce que je disais tout à l'heure. Donc nous, notre association, c'est une petite fille d'ATD Quart-Monde et on est très heureux d'être nés comme ça. Et donc on a commencé avec ATD Quart-Monde, puis après d'autres structures sociales, en tout plus de 50 structures sociales avec lesquelles on a travaillé depuis donc 2012 et qui ont permis de rencontrer, on peut le dire maintenant, des milliers, pas encore des milliers, mais plus de 1500 personnes avec lesquels nous avons fait de la montagne à chaque fois sur un stage. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet de vacances qui vont durer. Ça dure une semaine. Donc une semaine, on a le temps d'arriver, de se rencontrer, de découvrir la beauté déjà. Et puis de petit à petit découvrir la verticalité dans le rocher par exemple ou dans la Via Ferrata et de monter au refuge et du refuge s'émerveiller au lever du soleil et d'aller sur un sommet. Ça c'est le projet d'une semaine de stage en montagne, faire un beau sommet dont je serai fier toute ma vie.
Et je reviens juste sur les associations dont vous parliez. Elles sont partout en France. Ce sont des associations nationales et vous avez des personnes qui viennent de partout. Vous avez peut-être des villes avec qui vous avez des partenariats en particulier.
Alors oui, ce sont des associations essentiellement dispersées sur le territoire national et beaucoup dans les grandes villes. Parce qu'on... Il se trouve qu'effectivement, les grandes villes, le milieu urbain, concentrent une grande partie de la pauvreté, même s'il y a de la pauvreté dans les zones vertes, beaucoup. On a moins de contacts actuellement par l'intermédiaire de structures sociales. Et on a travaillé comme ça avec des personnes qui vivent aussi bien à Lille, à Toulouse, à Nancy, à Lunéville, à Paris, Marseille, bien sûr, Nice, etc. etc. Donc j'aime bien dire qu'à 82-4000, on a des amis dans toutes les villes de France, pas toujours dans les quartiers les plus réputés, mais c'est pas grave, c'est des amis très chers.
Puisque ce sont des personnes qui vont revenir.
Alors il y a effectivement la possibilité de revenir, parce que quand avec un groupe, on découvre par exemple l'alpinisme dans les Écrins et le Briançonnais, l'été, voilà, vous êtes venu en août, et puis vous avez touché la neige sur le glacier, vous avez envie de revenir l'hiver, parce qu'à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est qu'une cascade de glace, qu'est-ce que c'est que la glisse, et souvent avec la même structure, on va faire deux stages. Et puis il y a un autre cas de figure qui est quelque chose qu'on a imaginé dès le départ avec les amis guides qui étaient dans l'association. On s'est dit, mais nous on a été touchés tout de suite par la montagne, ça a changé notre vie, et quand on fait de la montagne avec 10, 20, 100 personnes, il y en a une qui va dire, oh là là, mais c'est trop bien, j'ai envie de revenir. Donc on savait qu'il y avait des personnes que ça allait beaucoup toucher. Et donc on accompagne particulièrement les personnes qui veulent, déjà pour redécouvrir l'alpinisme, ou bien pour s'insérer dans les territoires de montagne. Et donc c'est ce qui a donné la possibilité à l'association de créer, on en est très fiers, on a un corps d'ambassadrices et d'ambassadeurs, voilà, parce que ces personnes, quand elles reviennent, elles accompagnent d'autres stages, elles permettent à ceux qui découvrent pour la première fois d'avoir moins peur, et puis surtout, là où elles vivent, aux quatre coins de la France, elles parlent de la montagne d'une façon absolument sublime, et sont les meilleurs ambassadeurs de la montagne, bien meilleurs que nous.
Donc le cœur de vos actions, ce sont ces séjours, mais vous avez plusieurs actions à 82-4000 solidaires. On va sûrement détailler plutôt les stages, puisque comme je dis, c'est le cœur. Mais peut-être pour donner une vision d'ensemble à nos auditeurs et auditrices, pourriez-vous énumérer les différents événements et actions que vous faites ?
Oui, c'est assez simple. Bien sûr, le cœur, c'est d'aller en montagne. Et c'est ça qui est important. Et puis, on partage ce qu'on a vécu. Et ça, c'est ce qui a donné l'idée d'organiser chaque année une rencontre dans la montagne partagée, où la parole est donnée. C'est le cœur de l'association 82-4000 qui est de donner la parole aux bénéficiaires, aux vacanciers qui sont venus, qui ont découvert pour la première fois, et qu'ils puissent nous transmettre. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, de partager la montagne en particulier, avec ceux qui ne sont pas invités habituellement? Qu'est-ce que ça change dans notre façon de voir le monde, de voir les autres, d'avoir moins peur de ceux qui sont différents, et comment on construit comme ça un monde plus solidaire? Donc ça, c'est la rencontre de la montagne partagée.
Et puis, dernière était il n'y a pas longtemps.
Eh bien oui, le 7 septembre, tout à fait. Et donc elle était à la Grave, elle a lieu à la Grave, comme les dernières fois. Et on a pu aller sur le glacier avec un beau soleil. Et puis on a eu l'occasion donc d'ouvrir un gîte, qui est un chalet de montagne pour accueillir des personnes qui sont en difficulté économique dans le cadre des stages ou simplement comme gîte lorsqu'il est disponible, à Briançon. Une magnifique maison qui est très très belle et confortable pour un temps de vacances inoubliable. Et voilà, donc cette maison, on en est très fiers. Et donc maintenant, ça fait un an qu'elle est ouverte, et avec une aubergiste qui est une bénéficiaire, une ambassadrice, Jocelyne, qui aussi accueille d'une façon remarquable tous les groupes.
Pardon. Et ça fonctionne toujours avec les associations
qui
vous envoient des personnes qui viennent faire un séjour, mais du coup, cette fois, libre.
À 82-4000, on a toujours... on rencontre des personnes et le lien se fait avec un intermédiaire. C'est toujours deux associations, donc 82-4000 solidaires et une autre qui monte un projet en commun, ensemble. Et puis, ce qui nous a amené à comment dirais-je... Les alpinistes, on s'est aperçu, c'est d'une évidence absolument très simple, c'est que les alpinistes, ils vivent essentiellement dans les grandes villes. Alors, on vit à la ville, on rêve d'aller en montagne, et puis on prend des vacances, on va à la montagne. Et donc, on s'est aperçu que pour que le lien se noue, pour que les rencontres insolites entre les personnes qui vivent la grande pauvreté, des gens de la rue, des gens qui sont dans des quartiers très difficiles, rencontrent les alpinistes, eh bien, il fallait faire naître ce geste de croisement de culture dans les villes. Et c'est comme ça que l'association est en train d'essaimer avec donc des délégations urbaines, Paris, Grenoble, Lyon et bientôt d'autres, Toulouse en particulier, et des pôles ou des délégations montagne, puisque le projet qui est rêvé par exemple à Paris, eh bien, il va se concrétiser bien sûr dans la montagne. Et donc il y a le pôle Alpes du Sud qui est à Briançon et un pôle Alpes du Nord qui a été créé et qui est dynamisé, on peut dire ça comme ça, par un des salariés de l'association, qui est un jeune guide très brillant, Aurélien Vessière, qui porte le projet très haut.
Donc, des pôles, vous exportez, entre guillemets, des Alpes. Vous avez la maison pour accueillir, vous faites les séjours, les rencontres chaque année. D'autres actions, c'est déjà beaucoup.
J'en ai dit un mot. Le dispositif des ambassadeurs et ambassadrices est un travail en soi, parce que c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, d'une part, et leur donner une place essentielle, parce que c'est eux qui ont la première place. Bon, c'est une façon de renverser un peu des valeurs assez habituelles. À 84 000, on ne se contente pas de faire l'éloge de la lenteur et dire que notre bonheur, c'est d'arriver à la vitesse du plus lent, mais surtout, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, et c'est eux qui prennent la première place. Quelque part, ils sont nos guides. Et donc, c'est le dispositif des ambassadeurs qui a fait naître un dispositif d'insertion professionnelle, qui est pour l'instant un petit dispositif, mais qu'on appelle les cordées d'insertion, pour lesquelles que bénéficiaires qui pour lesquels naît un projet d'insertion professionnelle en montagne. Donc on a mis en place un dispositif qui est une sorte de mentorat, d'un double mentorat en ville et à la montagne, pour faire déboucher positivement un projet d'insertion professionnelle.
Et toutes ces personnes impliquées sont des bénévoles. Vous parliez quand même de salariés tout à l'heure. Donc vous avez et des salariés et des bénévoles ?
Oui, parce que dans un projet de vacances, il y a une partie très ludique, on va dire. C'est sûr, c'est quand je suis passionné, par exemple, vous êtes passionné d'escalade, et puis on vous a dit que mardi, il y avait un groupe de femmes là, qui vient faire de l'escalade. Vous allez avoir beaucoup de bonheur à aller rencontrer des gens que vous ne rencontrez jamais, des femmes qui vivent dans la rue, qui ont une histoire singulière, et vous allez faire de l'escalade avec elles, ça va être formidable. Mais pour que cette journée-là, qui est une journée vraiment emblématique, c'est un diamant dans une vie, eh bien, il y a tout un travail en amont qui est ce travail pour que la rencontre puisse se produire, pour, motiver des structures sociales au fait que, pour leurs bénéficiaires, pour elles-mêmes, cette aventure de la haute montagne va être très positive. C'est un travail de longue haleine, de rencontre, d'acculturation. Et ça, oui, effectivement, il y a des salariés dans l'association 82-4000. Il y a donc 5 salariés maintenant qui assurent la gestion, l'organisation, le montage des stages. Mais le cœur de l'association, et ça, on y tient beaucoup, les histoires d'amour, ça ne s'achète pas à coups de dollars. Donc et ça ne se partage pas en échange de valeurs marchandes. C'est donc des journées de montagne avec 82-4000. Les journées sont encadrées, on va dire, par des guides bénévoles et des personnes qui sont venues donner de leur temps et partager, même. Ce n'est pas que donner, hein. C'est parce qu'on a tellement à découvrir.
Avant de rentrer dans le détail, vous nous avez déjà mis l'eau à la bouche pour mieux comprendre tous ces séjours et ce qui s'y passe concrètement. Une petite pause musicale, c'est vous qui l'avez choisi, cette musique, Hugues. C'est tiré de l'album Lambarena, Back to Africa, de Hugues de Courson et Pierre Akendenge. Excusez-moi pour la prononciation. Et attention, ça va être pire, le nom de la chanson, le titre de la chanson, c'est Pepanzak Nonma. J'imagine que ça se prononce comme ça, peut-être que vous savez mieux que moi. Non. Bon, on écoute ça tout de suite. C'est donc le choix de notre invité. Donc d'un des titres de l'album de Back to Africa, donc que vous avez choisi, Hugues. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, à l'évidence, il y a une mixité culturelle extrêmement symbiotique au sens positif du terme, et c'est ce que je trouve magnifique. Bon, derrière cette réalité de rencontre des cultures africaines et occidentales, en l'occurrence de Jean-Sébastien Bach pour la partie du violon, il y a une personne, Albert Schweitzer, qui est un très très grand monsieur qui a aux multiples talents musicaux, théologiques, médicaux, philosophiques, etc. Et qui a créé un hôpital donc en Afrique et qui a écrit de la musique et qui a su transmettre justement tout l'avenir qu'il y a à s'écouter et à partager nos savoir-faire et nos cultures pour créer un monde où chacun a sa place.
C'est une belle découverte en tout cas. Vous pouvez aller écouter l'album. C'est vrai que c'est surprenant ce mélange, mais très intéressant. On va revenir quand même sur 82-4000 solidaires parce qu'on a encore plein de choses à dire. On n'aura sûrement pas le temps de tout dire. Mais j'aimerais revenir sur les stages qui sont vraiment les stages, les séjours, le cœur de vos actions, comme on le disait. Vous avez réalisé, j'ai vu sur le site, est-ce que c'est actualisé ou pas, 75 stages à ce jour. C'est bien ça. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête.
J'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a effectivement maintenant relativement un grand nombre. L'année dernière, donc il y a eu 24 stages qui ont été réalisés entre la délégation d'Alpes du Nord, Alpes du Sud et des Pyrénées.
Et concrètement, comment se déroule un stage ?
Eh bien, une fois qu'effectivement la rencontre a eu lieu, qu'on sait que les personnes vont arriver, donc c'est le temps le plus... Peut-être un des temps les plus importants, c'est l'accueil, quoi. Parce que si vous êtes dans la rue, dans un environnement assez rude, c'est pas la guerre, mais c'est vraiment dur, quoi. C'est l'insécurité. Et vous avez une personne charmante d'origine africaine, d'ailleurs Jocelyne, qui vous accueille à l'écrin 82-4000, le chalet qui est à Briançon, par exemple. Et là, c'est une maison qui est magnifique, très bien entretenu, où il y a de l'espace, où c'est... Et vous avez du mal à croire que ça, c'est chez vous, pour une semaine, certes, mais c'est chez vous. Et donc cet accueil, cette disponibilité des bénévoles, parce qu'il y a donc un guide, un accueillant qui sont là aussi, et qui racontent ce qui va se passer. On va aller en montagne, on va aller sur le rocher, on va sortir la corde tous les jours, mais vous serez bien entouré. Voilà. Et là, c'est déjà une première rencontre où il y a plein de questions. Ça y est, ça démarre.
Parce que ce sont des personnes qui n'ont parfois, souvent, j'imagine, jamais fait de montagne, donc ils n'ont aucune condition physique, aucune connaissance de ce milieu-là.
C'est très fréquent d'accueillir des personnes qui ne sont jamais venues en montagne, et même des personnes qui n'ont pas de vacances habituellement, ça c'est sûr, et qui... Ce qui me touche le plus, ce côté émerveillement, déjà à Briançon, en voyant la montagne, en voyant que la route a réussi à franchir le col, parce que c'est surprenant si on est d'un pays de plaine, on n'a pas idée que la route va faire des lacets, et c'est impressionnant, et en même temps c'est très beau. Et cette découverte d'une beauté qui nous est offerte, et dans laquelle je suis tout petit, et ça c'est à la fois très stimulant pour soi-même, et en même temps très impressionnant par rapport au fait que je n'ai pas bien grand-chose là-dedans.
Et donc les personnes arrivent, elles sont accueillies, vous leur expliquez, et ensuite ?
Eh bien ensuite, on démarre, on va s'équiper. La montagne, c'est ça qui est bien, c'est que ça nous met les pieds dans le sol. Je veux dire par là, ça reste très concret, très pratique. Donc si c'est l'hiver, c'est l'été, ben on va équiper les personnes. Notre grotte des Cinquantaines, qui est une espèce de caverne d'Ali Baba où il y a tout le matériel technique et vestimentaire pour permettre aux personnes d'être correctement vêtues. Même, j'ai envie de dire, notre désir, c'est qu'ils soient habillés comme ces gentlemen de la montagne que l'on côtoie dans les refuges d'altitude, avec du matériel technique de qualité. Donc c'est déjà un jeu là, de choisir la couleur de sa veste, du baudrier, assorti au casque, etc. Et ça permet de parler de la technique, le fait qu'il y ait du matériel. parce que le matériel introduit, pourquoi est-ce que je suis obligé d'avoir un baudrier, pourquoi on va avoir besoin d'un casque, etc. etc. Et déjà, le premier jour, en général, on va toucher du rocher s'il nous reste un peu de temps.
Donc voilà. Grimper déjà un petit peu.
Ça commence. Mmh,
d'accord. Et alors, vous avez donc ces personnes, j'imagine, vous avez des réactions, des retours. Ça me fait penser que vous avez écrit un livre là-dessus qui s'intitule, alors je vais reprendre le titre, pardon, « Les sommets sont à tous, partager la montagne avec les plus pauvres », publié aux éditions Glénat il y a 2 ans, que vous avez coécrit, vous, Luc Chardonnet, dans lequel il y a plein de témoignages. Et je crois que vous avez sélectionné des passages qui permettent de se rendre compte de ce que ça peut être pour eux ou pour elles.
Et pour nous, parce que souvent les guides nous le disent, c'est une façon de faire la montagne à laquelle on n'avait pas pensé et puis dans laquelle on n'a pas d'expérience, hein, je veux dire. Et on est très ému en général par l'importance que prend cette expérience pour les personnes qui ont... Et puis, ils nous font redécouvrir des valeurs fondamentales, comme par exemple ce que nous disait une bénéficiaire qui disait « Pendant cette semaine de la montagne, j'ai pris conscience de cette belle planète que nous habitons. J'étais très, très ému et je me sentais fondu dans cette beauté. Je faisais une avec la nature et je pense que tout un chacun, nous avons le devoir de la protéger. » Et de découvrir cette émotion du souci écologique dans une première journée de montagne, c'est absolument bouleversant, quoi, je veux dire. C'est pas simplement « moi, je suis venu en vacances ». Quoi. Et c'est essentiel, les vacances, bien sûr. Et puis, on a souvent des bénévoles qui nous disent « oui, mais c'est quand même... on a un complexe, là, on a quelque chose à résoudre parce que eux, ils sont en grande difficulté. Nous, alors, je dis toujours, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes difficultés, mais les difficultés, on en a tous. Et le temps des vacances, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse pendant laquelle je choisis de... Alors, aller en montagne, je choisis mes vacances. C'est l'espace de la liberté au sens le plus absolu. Et ressentir quelqu'un de libre, c'est le voir plus grand que soi-même. Et c'est très beau de Guindo, qui a... vit sans papier depuis 20 ans en France, qui connaît la rue et qui dit « Quand quelqu'un est dans la rue, c'est trop difficile. Il n'y a pas d'activité positive. Il a besoin de sortir de ses problèmes. C'est très important pour son moral de lui proposer des vacances. Voilà. » Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et c'est lui qui nous dit l'essentiel de ce qui a été pour lui important et est devenu ambassadeur d'association maintenant, bien sûr. Et porte-parole de la montagne partagée.
J'ai lu d'autres témoignages aussi. C'est vrai que sur votre site internet aussi, on voit des témoignages d'une maman qui dit qu'elle a réussi à se surpasser, elle a été bloquée, elle a été soutenue, elle s'est dépassée, elle y est allée, elle a réussi à atteindre le sommet et que c'est quelque chose qu'elle se remémore régulièrement. J'ai pas la citation sous les yeux, mais qu'elle se remémore régulièrement et que ça l'aide dans son quotidien aussi. Donc elle l'apporte dans le quotidien. Ce qui m'amène à une question quand même, c'est que à travers ces cordées, c'est assez symbolique la cordée en plus. Comme disait Michel Serres, dans une cordée, nous sommes tous solidaires. C'est un modèle de mixité sociale à ce moment-là, puisqu'on est tous humains, la vie des uns et des autres dépend des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une visée à sortir de la bulle de la montagne et à essayer d'exporter ce modèle de mixité sociale en dehors, dans votre association ?
Et oui, parce que c'est effectivement la cordée, ou en tous les cas, on pourrait dire le type de cordée que l'on veut constituer. Parce que il y a des chefs de cordée qui n'ont peut-être pas une certaine bienveillance et dont l'objectif n'est pas que le deuxième, le troisième ou le cinquième de cordée arrive au sommet, mais plutôt d'être porté lui-même pour battre un record ou pour dépasser ses limites, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend des fois comme propos comparables. À 82-4000, la cordée, elle se constitue pour que tous... nous arrivions au sommet ensemble et l'acmé, le sommet du stage, le sommet de l'aventure, c'est effectivement qu'on soit ensemble et au sommet Et c'est-à-dire que ça contraint cette bienveillance qui semble évidente, mais qui n'est pas toujours le cas dans une cordée, où il va falloir patienter, où il faut encourager celui qui a du mal, où il faut marcher à la vitesse de celui ou de celle qui marche moins vite que moi. Et de cette façon-là, on a cette joie immense d'avoir le regard qui se porte sur l'infini, comme quand on arrive au sommet, et la vie se déroule presque comme dans un souvenir d'un événement fort, où là, on sait que c'est ce moment-là de la vie, on est en train de vivre quelque chose qui va nous aider à vivre quand on va être redescendu dans la vallée et dans notre quotidien, avec toutes les difficultés que ça représente, y compris si je vis dans les cartons d'ailleurs, mais pas que.
Donc ça, ce sera sûrement le mot de la fin, puisqu'on est bientôt à la fin de cette émission, et oui déjà, mais simplement pour, ça boucle un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, le stage, on a l'accueil, l'équipement technique, on commence à toucher le rocher, et en fait les stagiaires, si on peut les appeler comme ça, grimpent en fait, clairement arrivent à atteindre des sommets, et puis ensuite retournent dans leur vie, mais peuvent avoir toujours un lien avec l'association comme on le disait tout à l'heure. Si vous voulez en savoir plus, peut-être, Hugues, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment, où vous trouvez, comment se tenir informé sur vos actions
Oui, ben c'est très facile. Ben déjà, il y a le livre, les sommets sont à tous, qu'on peut trouver dans toute bonne librairie. Et puis le site internet, donc, sur www.82-4000.org. Et puis, si vous voulez des informations plus précises, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@82-4000.org.
Merci, Hugues.
Merci.
Allez, viens, je rejoins ma montagne. Vois ces poteaux qui m'accompagnent. Épique et l'équipe, on rejoint le sommet. On est arrivé là-haut avant le lever du soleil. Au sommet, écoute le son du soleil. Après avoir marché comme dans le Sinaï, chaque seconde signale. Le poids du monde s'annule, toi qui le vivais si mal. Deviens l'immensité, deviens l'infinitésimal. Viens dans ma montagne, allez viens, viens dans ma montagne. Ici qu'un seul pas te sépare du vide, mais on surveille tes arrières. Rejoins la meute, oublie les barrières. Sur ces parois, pas de retour en arrière. Au début t'as peur, mais tu finis par rire. Je suis le loup, j'ai grandi ici, je pourrais y mourir avec fierté, j'y pense avec le sourire. Soupir, j'aurais pas vu les souvenirs, mais je bénis chaque jour mon sentier pour tous ces souvenirs. Allez viens dans ma montagne, viens dans ma montagne. Allez viens, viens dans ma montagne. Épique et l'équipe, on rejoint le sommet. On est arrivé là-haut avant le lever du soleil. Au sommet, au sommet. Cardio de Molosse, nous sommes les enfants de ces colosses. On t'apprendra à voler, à dévaler des vallées, à valer des vallons d'aval en amont, en avant, loin et laver de la vie des villes. Le monde est devant, en volant porté par le vent. On arrivera au sommet, au soleil, le vent. En volant porté par le vent, le monde est devant. On arrivera au sommet, au soleil, le vent. Ouais, ouais, ouais. La marche est rythmée, le vent vient de l'est, le pas est leste, chaque souffle est mesuré, le rythme est assuré, humilité devant ces colosses démesurés, gardien des paradis de toutes les pires tempêtes, sois motivé et rassuré. Au sommet le ciel est toujours azuré. Allez viens dans ma montagne, viens dans ma montagne. Rejoins les poteaux qui m'accompagnent. Je te présenterai les collègues habitués du décollage. Pour la plupart je les connais du collège. À l'époque on bricolait déjà des collages. On en fera tourner hein, quand on sera au sommet. Laisse donc ta vie d'emprisonner, y aura de quoi frissonner. Au sommet, bien au-dessus des cimes, on partira pas déçu même si les sentiers nous déciment. Allez viens dans ma montagne, viens. Allez viens dans ma montagne. Épique et l'équipe, on rejoint le sommet. Tiens le cardio, le manque d'oxygène pourrait t'assommer. Au sommet, bien au-dessus des cimes. Bien au-dessus des cimes. La marche est rythmée, le vent vient de l'est, le pas est leste. Chaque souffle est mesuré, le rythme est assuré. Humilité devant ces colosses démesurés. Gardien des paradis de toutes les pires tempêtes. Sois motivé et rassuré. Au sommet le ciel est toujours azuré. Allez viens dans ma montagne, viens. Allez viens dans ma montagne. Rejoins les poteaux qui m'accompagnent. Épique et l'équipe, on rejoint le sommet. On est arrivé là où t'étais encore dans ton sommeil.